Jeudi 20 février, nouvelle manifestation dans les rues de Douai contre le projet de réforme des retraites. Moins de monde que d'ordinaire. Parmi les manifestants, Charles Beauchamp, conseiller départemental communiste du Nord.
Une de plus, quoi, et on va pas baisser la garde, hein, puisque plus que jamais, on a le sentiment dans la population que la lutte est toujours d'actualité pour faire que cette réforme n'aboutisse pas, que la casse des retraites n'aboutisse pas.
Quand ça arrive à l'Assemblée nationale, ça n'a pas déjà échappé?
On peut penser que ça a échappé, mais aujourd'hui, il y a quand même dans la population, et avec les municipales, on fait des porte-à-porte, là. Les sujets nationaux ne sont pas forcément abordés, mais quand on parle des retraites, ça accroche tout de suite. Et majoritairement, les gens rejettent ce projet de réforme.
Si vous étiez porteur d'un projet de réforme, vous seriez prêt, vous, à le soumettre à un référendum ?
À moi, absolument. Ça paraît absolument normal que le référendum puisse juger si, effectivement, le contenu de la réforme convient aux Français ou s'il ne convient pas. Et aujourd'hui, les députés communistes ont proposé un référendum. Et bien évidemment, M. Macron et ses amis ont peur et ils ne donnent pas suite. Donc il faut imposer ce référendum.
Sur les critères qui permettront d'évaluer la valeur du point, vous avez été convaincu sur les arguments ?
Absolument pas, je ne suis convaincu, absolument pas. Il n'y a pour moi, mais alors vraiment, dans cette réforme, il n'y a absolument pas de positif. Tout est négatif, tout est fait pour que le salarié soit perdant.
Le MoDem, qui se présente comme l'aile sociale finalement de République En Marche, dit « Nous, on veut qu'on travaille sur la pénibilité ». Vous y croyez à ça ?
Alors, le MoDem, comme l'aile sociale, quand on fait le bilan politique du MoDem, on peut s'inquiéter, en effet, de l'aile sociale d'aujourd'hui au gouvernement. On peut s'inquiéter, oui.
C'est sur la question de la pénibilité qu'il faut travailler aujourd'hui ou pas du tout
C'est l'un des aspects. Vous savez, j'ai encore reçu des gens à ma permanence hier. La plupart, est-ce que c'est dans l'air du temps, j'en sais rien. Mais les gens qui venaient me voir, c'était pour des problèmes de retraite. Et quand ils sortent leur projection de retraite, c'est effrayant. Il n'y a pas que la pénibilité. Il y a aussi le revenu, le niveau de la retraite. Parce qu'aujourd'hui, des retraites à 1000 euros, c'est beaucoup pour certains. C'est beaucoup. Et on ne les atteint pas. Un monsieur me disait, il était pertinent, il dit, moi, un niveau de retraite aujourd'hui, ça ne peut pas être inférieur à 1500 euros. Et il avait raison.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment auprès des travailleurs les plus précaires. Et je pense, par exemple, à toutes ces femmes qui travaillent dans l'action sociale. Ça, c'est le domaine de compétence du département, l'action sociale. Vous êtes un gros pourvoyeur d'emploi dans ce domaine. Quel avenir pour ces dames-là ?
Ah ben justement, l'avenir, il est aujourd'hui encore plus qu'incertain pour elles. Moi, je vois dans les services d'aide à domicile, j'en ai parlé longuement hier, dans les services d'aide à domicile, on voit des situations de précarité qui sont flagrantes. On voit des personnes qui n'auront pratiquement pas de cotisation à un niveau suffisant pour avoir une retraite décente. Tout est à reconstruire. Mais vraiment, tout est à reconstruire. Et ça ne peut se reconstruire que sur le partage des richesses. Si on ne travaille pas un nouveau partage des richesses, on ne pourra pas reconstruire une société juste. Ce n'est pas possible.
Et ces dames interviennent justement parce qu'elles ont affaire à un public qui a la possibilité de financer en partie ce service.
Non, qui a encore aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Parce qu'au niveau des retraites, au niveau des accompagnements, au niveau des problèmes financiers des collectivités, notamment des départements, je ne sais pas dans quelles conditions on pourra, nous, par exemple, continuer à accompagner ces démarches-là. Je ne sais pas. Y compris ces garanties d'emploi qu'on peut penser pérennes ne le sont pas.
C'est-à-dire qu'on va avoir des travailleuses fatiguées par leur travail qui ne pourront pas accéder au niveau de service qu'elles ont apporté à d'autres bénéficiaires avant.
Tout à fait. C'est ça, oui, c'est ça. On en arrive à cette extrémité-là. Alors on a intérêt effectivement à continuer à se mobiliser. C'est plus qu'urgent.
Vous êtes déçu aujourd'hui, il y a un peu moins de monde que d'ordinaire.
Je vais dire que déçu, non. On espère toujours davantage de monde. Et il faut continuer à mobiliser. Ce matin, on était déjà à l'AFPA à Quentin parce que ils engagent des sanctions disciplinaires contre 3 formateurs. Là aussi, c'est la mort programmée de l'AFPA. Hein. Il y avait un peu de monde. Ici, bon, on aurait pu souhaiter davantage de monde. Il faut continuer à mobiliser. Me disait une dame hier, le problème dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, les banques tiennent tout. C'est que tout le monde est pris par des prêts. Les gars qui bossent sont pris par des prêts. Aujourd'hui, celles et ceux qui peuvent encore lutter, ce sont celles et ceux du service public. Ceux qui sont dans le privé rencontrent vraiment beaucoup de difficultés. Alors tout ça, effectivement, ça a été organisé, orchestré pour casser les luttes sociales. Mais je pense que majoritairement, le rejet de la réforme, il est plus fort que jamais.
Enfin, dernière question sur l'actualité. La régie Renault, il y a de l'inquiétude là, actuellement. Et on entend également des élus ici nous dire « Ne vous inquiétez pas, il y a des investissements qui sont faits, la régie va rester, une usine ne peut pas investir et décider de fermer demain. »
On a déjà vu des usines investir beaucoup et fermer quelques mois après. Donc tout ça, c'est un argument qui, pour moi, ne tient pas. La situation de l'automobile dans le pays, il faut la regarder avec sérieux. C'est quand même, dans le département du Nord, en quelque sorte, une mono-industrie. On est dans le cas d'une mono-industrie. Nord et Pas-de-Calais, puisqu'on est limitrophe avec Renaudoué. C'est, alors effectivement, on a déjà eu des phrases du style « l'usine Renaudoué a été une erreur ». Ça nous renvoie une quinzaine d'années en arrière. On a déjà eu une refonte complète de l'outil de travail pour une autre production. On nous a dit avec l'attalissement, le haut de gamme, vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a rien vu. Maintenant, on parle du véhicule électrique. Moi, le véhicule électrique, je suis très interrogatif. Je préfère le véhicule hydrogène, hein, parce que le véhicule électrique, des spécialistes de l'écologie viennent nous expliquer qu'à terme, ça va aussi poser beaucoup de problèmes. Donc ce qui se passe à Renaudoué, c'est très inquiétant. Est-ce que c'est encore un coup du patronat de Renault pour travailler à des négociations qui permettent d'avoir que le patronat s'en sorte davantage au détriment des salariés, c'est possible. Mais une situation comme Renaudoué, au départ, c'était, avant la création de l'entreprise, c'était 12 000 emplois qui étaient prévus. On n'a jamais dépassé les 8 000 emplois. Aujourd'hui, on doit tourner autour des 3 000 et encore. Et c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et on doit se mobiliser. On ne doit pas dire non, non, c'est pas grave, on est là.
Se mobiliser sous quelle forme ?
Ah bien, écoutez, il y a sans doute des comptes à demander à l'entreprise, au patronat de chez Renault. Hein.
Et qui doit demander ces comptes ?
Ah bah d'ailleurs, il y a un travail partenarial entre les forces qui luttent et puis l'ensemble des forces qui luttent, c'est-à-dire les partis politiques de gauche et puis les syndicats. Hein. Moi, je veux bien qu'on vienne nous expliquer beaucoup de choses dans le Douaisis. Je remarque qu'une chose dans le Douaisis, c'est qu'on s'attache à une seule chose aujourd'hui dans le Douaisis. Certains qui viennent nous expliquer que le développement économique, c'est leur rayon. Leur développement économique à eux, c'est le développement de l'emploi précaire. C'est d'abord ça. Et nous, c'est pas ça. C'est de l'emploi industriel que l'on veut. Alors il faut préserver et augmenter les possibilités d'emploi industriel.
Charles Beauchamp, conseiller départemental communiste du Nord. La manifestation à Douai, jeudi 20 février, contre le projet de réforme des retraites, aujourd'hui sur Radio Scarpe Sensée. Et l'on retrouve Pascal Zabot pour la CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai.
Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bon, il y a peut-être un vue de nez, là, il y a un petit essoufflement sur Douai. On va voir ce que ça va donner ailleurs. Mais il n'est jamais trop tard. De toute façon, la loi n'est pas encore votée. Tant que la loi est votée, tant que la loi n'est pas votée, il y a de l'espoir. Et même si elle est votée, comme pour le CPE, il suffit de ne pas faire censurer les décrets d'application. Et c'est toujours possible.
Donc il y a des situations de blocage qui seraient encore envisageables pour que ce ne soit pas mis en œuvre.
Il y a toujours des situations de blocage. On ne sait jamais. Peut-être les godillots de la LREM vont prendre conscience qu'effectivement, c'est une contre-réforme qui va mettre des gens dans la misère. Et peut-être ces godillots, parce que je les appelle des godillots, font en sorte de ne pas voter cette réforme scélérate.
C'est plus compliqué de mobiliser quand les trains roulent.
c'est beaucoup plus compliqué de mobiliser parce que c'est beaucoup moins visible. Effectivement, quand nos camarades de cheminots font grève, c'est très visible. Au niveau des médias, la télé, on en parle beaucoup. Là, il n'y a pas de... au niveau de la SNCF, les cheminots sont un peu dans le creux de la vague. Donc effectivement, c'est plus difficile pour nous.
Vous avez été convaincu par les différents argumentaires qui ont été développés par le gouvernement pour expliquer, faire preuve de pédagogie dans le sens de sa réforme et de la calcul de la valeur du point, entre autres.
À partir du moment où on s'intéresse profondément au sujet des retraites, on a lu les rapports de Levoix, on a lu le projet de loi, on ne peut pas être rassuré par les arguments du gouvernement, étant donné que tout va se décider par décret. À partir du moment où tout se décide par décret dans la loi, tout le monde l'a dit que ça va être décidé par décret, donc il n'y a rien de rassurant. Au contraire, on peut considérer que c'est la pire des choses, c'est de faire une situation qui va évoluer pour les retraités de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et ça risque d'être une catastrophe, et ça sera une catastrophe pour les futures retraites.
La retraite à 62 ans aujourd'hui, elle est menacée selon vous ?
Il n'y a plus de retraite à 62 ans. La loi dit que la retraite à taux plein c'est 64, donc c'est 64. Il n'y a pas de retraite à 62 ans. On peut toujours partir avant, mais il y a toujours eu des décotes si on part avant. Donc c'est un faux argument. La retraite, c'est 64 ans à taux plein. Voilà, c'est 64. Donc après, ce sera 65, 66, 67. Dans le rapport de Levoix, on parle justement d'un âge à 67, éventuellement avec le prolongement de l'espérance de vie. Le fameux argument qu'on nous oppose sans arrêt, on ne parle jamais de l'espérance de vie en bonne santé, mais effectivement, il n'y a plus de retraite 62, ça c'est à l'heure.
Aujourd'hui, restez-vous confiant, vous dites, vous expliquez là, on peut bloquer, pas de décret d'application, vous y croyez vraiment ou c'est pour se motiver, garder la flamme ?
Il faut garder la flamme déjà, ça c'est sûr. On ne va pas partir si la flamme s'éteint déjà chez les militants, CGT, c'est pas possible. Mais effectivement, non, on espère toujours. Le CPE, c'est un exemple. La loi du CPE a été votée, les décrets ne sont jamais parus, donc il y a toujours un espoir, même si la loi est votée. Donc, non, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. C'est le désespoir qui fait mourir, mais l'espoir fait vivre.
On entend également dire, mais c'est normal parce que toute réforme est anxiogène. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Toutes les réformes ne sont pas anxiogènes. Quand on a créé la sécurité sociale, quand Ambroise Croizat a créé la sécurité sociale, c'était pas anxiogène, c'était les jours heureux, c'était merveilleux. Là, c'est anxiogène parce qu'on sait pertinemment que ça fait faire diminuer le montant des retraites et que ça va faire en sorte, comme dans les pays, moult pays anglo-saxons, d'obliger les retraités à travailler jusqu'à 70 ans, parce que ça existe. Il suffit de prendre l'exemple de l'Angleterre ou de la Suède. Les gens sont obligés parfois de travailler 70 ans pour avoir un minimum à vivre. C'est ce que veut faire Macron avec la réforme à points. On sait pertinemment que les personnes d'un certain âge, on parle de seniors à 45 ans, donc on sait pertinemment que les employeurs ne veulent pas embaucher. On sait que le taux d'emploi chez les plus de 60 ans est très faible. Donc c'est à l'heure. Les gens ne travailleront pas plus. Le but, c'est de faire des économies. Le but, c'est que diminuer le montant des retraites du régime universel et d'obliger les gens à aller chez BlackRock et aller dans des fonds de pension. Le but avoué, c'est ça, et de fragiliser aussi le salarié. Parce que quand la sécurité sociale n'existera plus, parce que la sécurité sociale n'existera plus à partir du moment où le système universel des retraites ça sera mis en place, la sécurité sociale sera mise à mal. Ça va fragiliser le salarié, parce qu'il n'y aura plus de sécurité sociale contre les aléas de la vie. Et le but, c'est de fragiliser le salarié et de faire en sorte de le diriger vers les fonds de pension. Ça, c'est une réalité, c'est évident. C'est ce qu'a mis en place Thatcher dans les années 80 en Angleterre. C'est ce qu'a mis Reagan aussi aux États-Unis dans les années 80. Macron, qui se veut le chantre de la modernité, en fait, utilise des choses qui ont 40 ans passé, quoi. Donc, voilà, c'est une absurdité qui est mise en place. C'est le tout libéral, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication à donner aux gens, c'est du tout libéral.
Quand on parle de faire des économies, donc réduire les déficits, c'est pour générer une autre forme d'économie, cette fois-ci, l'économie des fonds de pension ?
Bien sûr. Le but avoué, c'est de faire en sorte que le PIB, la part consacrée au PIB pour les retraites ne dépasse pas 14%. À partir du moment où il y aura plus de retraités et qu'il n'y aura que 14% pour de PIB consacré aux retraites, ça va faire diminuer mécaniquement le montant des retraites. Qu'est-ce que vont faire les gens pour pouvoir vivre ? Ils vont s'orienter sur les fonds de pension, l'assurance vie, etc. BlackRock représente 6 000 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 2,5 fois le PIB de la France. Ils ont besoin d'argent, il faut mettre de l'argent dans la pseudo-économie de marché, donc c'est ce que veut Macron parce que c'est un libéral et toute sa politique économique est tournée vers le libéralisme.
Merci beaucoup. C'est quoi ce bruit-là ?
Ah, ça, c'est un démarrage d'ancienne locomotive SNCF.
Alors, vous êtes venu vous faire entendre ?
Ouais, voilà, faire voir que les cheminots sont toujours dans l'action.
Même si le trafic est assuré ?
Même si le trafic est assuré, bien sûr. Mais depuis le 5 décembre, on a démarré la grève et on continue malgré tout. On a les camarades qui ont repris le boulot parce que financièrement, ça devient très, très, très compliqué. Et bon, on comprend très bien, mais ça n'empêche pas qu'on est tous solidaires dans l'action. Et d'ailleurs, les copains, ils repartent au travail pour reprendre un peu de salaire. Mais s'il faut que ça continue, ils vont reprendre le mouvement par la suite.
Pensez que les gens ont compris qu'aujourd'hui, la lutte, c'était pas une lutte uniquement de corporations, de cheminots ?
Non, du tout. La preuve, aujourd'hui, les cheminots, on est minoritaires. Comme je disais, depuis le 5 décembre, c'est normal que les gens ils sont repartis au travail, malheureusement. Mais là, non, là, il y a tout service, toute entreprise. Et bon, c'est sûr que le rassemblement, il n'est pas encore assez conséquent. Quand on voit le gouvernement qui fait la sourde oreille, qui n'écoute pas au moins les avis de la population, c'est tout, on continuera jusqu'au retrait définitif de cette réforme qui est néfaste pour tout le monde.
Même si elle est votée, au final, il faut continuer à se mobiliser. C'est pas un déni de la démocratie quand une chose est votée par nos représentants.
Ben, on verra quand ça sera voté. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on veut toujours y croire. Et il faut d'ailleurs y croire parce que si on laisse mettre en place cette réforme des retraites, eh bien on va seulement accentuer la pauvreté qu'il y en a beaucoup trop déjà aujourd'hui en France d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi, bonne journée.
Radio.
Radio. Radio.
Femmes sans visage, à la télé, sage.
Radio.
Radio. Radio. Scarpe sens.
Manifestation contre le projet de réforme des retraites, Douai, 20 février 2020.
Reportage.
David, de la CGT AFPA, Hauts-de-France.
À Quentin.
À Quentin, toujours. Ouais.
Complique.
On était mobilisés ce matin sur le site de Quentin pour les trois collègues qui ont été licenciés de façon dégueulasse. Donc on avait organisé un petit rassemblement qui était le premier épisode, il y en aura un autre. On se mobilisera toujours pour les soutenir jusqu'à leur réintégration.
Le motif officiel de ce licenciement, de ces licenciements.
Alors le motif officiel de ce licenciement, eh bien, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'AFPA actuellement, on est en mesure de plan social hein, qui se termine le 31 mars, mais en parallèle. Aux suppressions de postes, aux 1000 suppressions de postes, 1500 même. Il y a un plan B, c'est de foutre les gens. On met des gens dehors par la porte, mais on en jette également par la fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, pour les histoires de frais de déplacement, il y avait un usage, entre guillemets, d'entreprise qui était en place depuis 2012. Et suite au changement de direction générale, il y a eu un audit sur les frais de déplacement. On a décidé de couper la tête à ces trois salariés sur des faits qui sont complètement aberrants. Concrètement, ils n'ont pas dépassé le plafond comme la direction le prétend. D'ailleurs, la commission de discipline, au mois de novembre, s'est même abstenue sur leur licenciement. Mais la directrice générale a décidé de les muter disciplinairement à des centaines de kilomètres. Chose que nous, on n'accepte pas, parce qu'on un organisme de formation qui a vocation sociale ne peut pas mettre en application des mesures qui vont détruire la vie sociale de ses salariés. Donc nous, ça, on ne l'accepte pas. Après un mois et demi de bras de fer, de négociations, ils avaient décidé de revoir la sanction à 3 jours de mise à pied et 6 mois de mobilité nationale, chose que nous on ne peut pas accepter parce que c'est contraire au droit du travail. On ne peut pas mettre de sanctions pour un fait fautif. Là-dessus, la direction nous a amené une fin de non-recevoir et leur a envoyé aux trois collègues concernés mardi dernier 3 lettres de licenciement. Voilà.
J'ai 49 ans, moi. Si demain je veux changer de métier, mais entièrement parce que ça va plus là où je suis, où je peux aller me former s'il n'y a plus l'AFPA, s'il y a 1500 formateurs en moins, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?
Ah ben, ça va être très compliqué parce que la loi Avenir Professionnel, et notamment ce qui concerne la réforme de la formation professionnelle, les formations qualifiantes, il ne va plus y en avoir beaucoup. Alors, des organismes de formation, entre guillemets, virtuels, des gens qui s'improvisent, organismes de formation avec aucun contenu de formation et qui essayent de vendre des blocs de compétences complètement bidons et qui n'amènent à aucune qualification et quand bien même qui vont, à plus ou moins long terme, on va foutre en l'air des métiers. Si on continue à fonctionner comme ça avec ce que le gouvernement veut mettre en application avec les blocs de compétences, on va foutre en l'air des savoir-faire, des métiers et toute une culture professionnelle qui existait en France. Donc ça, c'est un réel danger et ça rappelle certains faits historiques. Hein. Faut pas oublier qu'à une certaine époque, on a arraché des pages de livres, on a brûlé des livres pour effacer l'histoire. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est rendre service aux entreprises qui ne sont pas capables en plus de payer correctement les gens. Et là, le danger, c'est qu'on va tuer les statuts des salariés en France en faisant ça, en retirant les qualifications.
Ce qui veut dire que, également, ça a une incidence ça, sur la reconnaissance du niveau de compétence et donc sur la fiche de paye.
Tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué. La non-qualification, si on forme uniquement sur des tâches, si on forme uniquement sur des tâches, ça démolit les grilles de salaire. Ça va démolir les conventions collectives.
Inquiet aujourd'hui ?
Bien sûr, inquiet pour les citoyens, parce que non seulement, et là notre prochain combat également, nous à la CGT AFPA, c'est d'aller faire connaître également sur le terrain le niveau de rémunération Et par rapport au seuil, au seuil de pauvreté, les rémunérations qui sont accordées aux jeunes qui ne sont pas titulaires du RSA, un jeune aujourd'hui qui rentre en formation, il touche une indemnisation de 300 euros. Comment ? Alors déjà, moi, personnellement, j'ai des stagiaires qui viennent en formation, qui vivent avec ces 300 euros-là, qui se logent, qui vivent et qui n'ont même pas 20 euros pour mettre du carburant dans leur bagnole pour venir se déplacer. Parfois, c'est même des formateurs qui leur remplissent leur réservoir.
C'est moins qu'une allocation de service civique.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est une véritable honte. Et nous, nos prochaines revendications, ce qu'on va les faire connaître au conseil régional, à la CGT, c'est de faire comprendre qu'avec ce qu'ils donnent à ces personnes, c'est pas digne. C'est pas digne d'un grand pays comme la France, où on sait pertinemment qu'il y a du pognon qui est donné via le CICE aux entreprises, et cet argent-là, qui est versé à des entreprises qui font déjà des millions de bénéfices, alors qu'il y a des gens en France qui ne sont pas capables de bouffer correctement et de se déplacer pour venir en se former.
Jeudi 20 février 2020, manifestation à Douai contre le projet de réforme des retraites.
Bonjour, je me prénomme Xavier, je suis aide-soignant à la maison de retraite du centre hospitalier de Douai.
C'est une structure du centre hospitalier.
Oui, tout à fait. C'est un EHPAD, donc un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes qui dépend du centre hospitalier de Douai. Les personnels sont des agents du centre hospitalier de Douai.
Aujourd'hui, vous êtes mobilisé contre le projet de réforme des retraites ou également pour alerter sur les conditions de l'hôpital public.
Alors nous, ce que l'on cherche au syndicat CGT du centre hospitalier Douai, c'est un peu à cristalliser les luttes, la convergence des luttes. Parce qu'effectivement, ce problème de retraite à points qui a d'universel uniquement le nom, tout le monde voit très bien qu'il n'est absolument pas universel, cette lutte vient s'inscrire dans un combat beaucoup plus général qui est aussi celui de défense des services publics où on demande des moyens pour soigner correctement nos aînés, les patients, etc. Et moi, il y a absolument quelque chose qui me révulse, c'est qu'on commence à parler de clients et non plus de patients au centre hospitalier de Douai. Donc il ne faut pas oublier que le centre hospitalier de Douai rend une mission de service public, c'est la santé de la population du territoire de santé qui est en jeu. On ne doit pas parler de clients, mais de patients. On a des usagers, pas des clients.
Je viens de réaliser l'interview du directeur du centre hospitalier qui me dit comme ça, moi j'ai un plan de retour à l'équilibre financier sur 3 ans. Je ne peux pas aller plus vite. Je maintiens les emplois, je les conforte, les emplois. Le problème vient de où ? C'est qu'on lui demande de faire un exercice compliqué dans une enveloppe insuffisante au final ?
Le problème, c'est que notre gouvernement actuel et les précédents considèrent la santé comme une marchandise. Or, la santé n'est absolument pas une marchandise. Nous, au centre hospitalier Douai et dans tous les centres hospitaliers Douai, on travaille avec de l'humain. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on ne peut pas poser notre clé puis dire on reprendra demain matin quand la chaîne remettra en route. On travaille avec de l'humain. C'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est que la santé est considérée comme une marchandise. Ensuite, quand j'entends monsieur le directeur parler de la confort, qui conforte les emplois, faut m'expliquer comment, quelle est sa politique sociale. Les CDI, on n'en parle pas, on travaille avec énormément d'agents qui sont dans la précarité avec des contrats d'un mois, 15 jours, j'ai déjà vu des...
Il annonce de la CDIsation là, même dans l'année à venir, hein, dès aujourd'hui.
C'est bien, de la CDIsation, on le jugera sur les actes et pas uniquement sur les paroles. Après, n'oublions pas non plus qu'il n'y a pas que la CDIsation, il y a aussi la titularisation. Nous, à la CGT, on dit que les établissements publics, il ne doit pas y avoir de CDI, il doit y avoir des titulaires de la fonction publique hospitalière. Donc la CDIsation, c'est bien, on le jugera sur les actes. On attend après de voir aussi les titularisations.
L'idée également d'avoir des techniques et des pratiques médicales rentables, c'est-à-dire qui permettent finalement de trouver l'équilibre et d'aller vers une spécialisation finalement des actes. Vous regardez ça comment, vous ?
Moi, mettre dans la même phrase le mot santé et rentable, c'est quelque chose qui me choque. C'est pour ça qu'on est mobilisé aujourd'hui. On défend le plus beau système du monde, qui est la sécurité sociale. Parce que n'oublions pas que le système de retraite à points contre lequel on se bat, c'est la mise à sac d'une branche de la sécurité sociale. Parce que la partie retraite, c'est une branche de la sécurité sociale. Quelle sera la prochaine branche que l'on mettra à sac? Est-ce que c'est la branche maladie ou pas? Donc je vous dis, moi, mettre dans la même phrase santé et rentabilité, non. La sécurité sociale, comme l'a dit Ambroise Croizat, chacun cotise selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. Or, ce que ce gouvernement et les prédécesseurs essaient de faire depuis des années, c'est de donner cette manne financière au système de gestion privée, des assurances privées. Regardez le nombre de milliards que représente la sécurité sociale. C'est inadmissible pour le capital que ça reste aux mains, même pas de l'État, puisque la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est totalement indépendant. Donc ce que veulent ces gouvernements, c'est donner cette manne financière à des sociétés d'assurance privée. Et nous, ça, on n'en veut pas. On veut conserver ce système solidaire que le monde entier nous envie. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de vous taxer l'air que l'on respire? Je pense pas. Pareil pour la santé. La solidarité, ça ne se négocie pas. Les retraits, les conquêtes sociales, pour ne pas parler d'acquis, elles doivent se défendre tous les jours. Et malheureusement, on est acculé à défendre notre plus beau système du monde, le dos au mur.
On peut parler des conditions de travail, parce qu'on entend parler également du débat de la pénibilité qui pourrait éventuellement venir donner quelques avantages à des métiers spécifiques. La pénibilité, c'est quoi pour vous au travail?
La pénibilité. Alors, je ne vais pas vous parler de la définition de la pénibilité telle qu'on essaie de nous la faire définir actuellement, parce que pour avoir un critère de pénibilité, il faudra quasiment être mort pour dire bah, effectivement, vous aviez raison, votre travail était pénible. Moi, je vais vous parler de mon quotidien. C'est-à-dire des personnes âgées avec lesquelles je ne peux pas passer le temps que je voudrais passer. C'est 20 toilettes à faire à deux le matin en 3 heures. Où est l'humain? Où est l'humain? C'est ça la pénibilité. Et les soignants ne se retrouvent plus non plus dans ce système. Parce que quand on est soignant, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est par vocation, on a de l'empathie. On aime soigner, on aime prendre soin des gens. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous donne le temps et les moyens de faire notre travail correctement. C'est-à-dire de remettre l'humain au centre de notre travail.
On sent quand même la population très attachée aujourd'hui à son hôpital, à son système de santé. C'est important ça que d'avoir l'adhésion du bassin douaisien autour de l'hôpital.
Alors nous avons avec le comité de défense des services publics du Douaisis essayé de distribuer des tracts au centre hospitalier. Parce que je pense qu'on ne pourra sauver notre hôpital public que si on implique effectivement la population. Parce que certes les conditions de travail se dégradent, les personnels soignants sont les premiers à le dénoncer. Mais au final qui va trinquer? C'est les patients, parce que des personnels soignants en détresse, ça veut dire une qualité de soins qui va se dégrader. Et il faut impérativement associer les patients, et j'ai bien dit les patients et non pas les clients, les usagers du service public à la défense de notre bel hôpital public. Nous sommes tous des patients potentiels, parce que nous aurons tous dans notre vie un problème de santé qui font que nous serons amenés à nous rendre à l'hôpital public.
Dominique Benne, Union départementale des syndicats CGT du Nord.
Alors Dominique, 20e jour de mobilisation, un peu moins de monde à Douai aujourd'hui, hein?
Oui, un peu moins de monde à Douai, mais en même temps, depuis le début, c'est en dents de scie, les mobilisations. Nous sommes quand même en période de vacances. Comme ça vient d'être dit, eh bien, ça fait la Xème manifestation. Mais moi, ce que je retiens toujours dans ces derniers temps, c'est la diversification dans le mouvement de grève. Les médecins qui viennent de démissionner de leur mission administrative, les avocats qui jettent leur robe dans les séances solennelles. Moi, j'avais jamais vu ça alors que je milite depuis 73.
Convergence des luttes?
Convergence des luttes, avec entre les travailleurs, mais aussi avec les différentes professions.
Le déterminant commun à toutes ces luttes, c'est quoi?
Ben, c'est la retraite. Bien évidemment, c'est le retrait de la retraite. Mais moi, je pense que ça va beaucoup plus loin. Parce qu'avec cette réforme de retraite, on va supprimer les CARSAT. Donc ça veut dire que c'est bien une branche de la sécurité sociale qui va disparaître. Il ne reste plus que l'assurance maladie et la branche famille. Donc ça veut dire que dans la foulée, si on perd ce combat, qu'on ne peut pas perdre, eh bien c'est la sécurité sociale qui est liquidée.
6 départements placés en zone test pour que les administrés puissent aller dans des débits de tabac pour faire des démarches auprès de l'administration fiscale. Votre regard là-dessus?
Ben, regarde là-dessus, je pense surtout aux communes qui ont besoin de leur trésor public pour les aider dans la gestion financière de leur commune. Je pense surtout aux salariés les plus précaires qui ont besoin des centres d'impôts, des trésors publics de proximité pour les aider dans leur démarche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans une période où on a entre 80 milliards et 100 milliards de fraude fiscale par an, en France, on va diminuer les contrôles au ministère des Finances.
La régie Renault, tout saute aujourd'hui. De l'inquiétude, il faut se mobiliser tout de suite autour de l'avenir du site de Douai.
D'ailleurs, une réunion est programmée le 28 février prochain avec le syndicat de Renault, parce que ça ne concerne pas que Renault, ça ne concerne pas que le Douaisis, parce que déjà pour les salariés, ils travaillent dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, pour certains. La sous-traitance, les emplois induits, ça va être une véritable catastrophe dans le Douaisis. Mais ce n'est pas une surprise. Quand ils ont installé les nouvelles chaînes à Renault-Douai, les voitures de haut de gamme, hein, Talisman, je ne sais plus trop quoi, l'Espace, la Scénic, j'avais dit au préfet avec lequel nous étions en réunion, je représentais la CGT, qu'il avait fait une erreur. Renault a fait une erreur. Ils auraient dû mettre les voitures en couleur jaune, comme ça ils étaient sûrs de ne pas les vendre. Et Renault aurait disparu. Ouais, c'est une véritable catastrophe, mais elle est programmée.
On entend des responsables politiques du Douaisis dire pas d'inquiétude, des investissements ont été faits, c'est pas pour qu'on ferme l'usine demain. Vous n'y croyez pas, ça?
J'invite les élus politiques à venir quand l'Institut d'Histoire Sociale du Douaisis Environ va organiser une réunion pour rappeler comment Renault Douai s'est installé à Coissy. Ils verront que Renault s'est installé parce qu'il était nationalisé, qu'il y a une lutte du syndicat CGT mineur, des élus communistes du Douaisis pour que l'emploi faire face à la diminution de la casse d'emploi des mines, pour qu'il y ait une industrie qui s'installe dans le Douaisis. Il y a eu l'imprimerie nationale qui s'est installée en même temps. Mais pour rester sur la filière automobile, après Renault, c'est la Française de mécanique qui s'est installée. Et aujourd'hui, on a la première région de la filière automobile en France. Et ce n'est pas venu par hasard, c'est venu grâce à la lutte. Et ils ont bel et être optimistes. Si on ne lutte pas, Renault va disparaître de la carte. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'un directeur, un PDG de Renault, avait dit « Renault Douai est une erreur économique ». Parce qu'évidemment, il s'est implanté à Douai, l'usine s'est implantée à Douai par la lutte des travailleurs. Donc ils ne l'ont pas admis.
Donc aujourd'hui, plus que jamais, le temps est à la mobilisation.
Oui, et puis je pourrais parler aussi de ce qui se passe avec Bombardier et Alstom, où on vient d'apprendre.
Certains s'en réjouissent de ce mariage.
Ah oui, s'en réjouissent de ce mariage, mais il y a deux tiers à Bombardier et Alstom, il y a deux tiers de personnel d'encadrement, bureau d'études, innovation, recherche, deux tiers des salariés, ils vont être en doublon. Vous voyez, les gens croient que les salariés vont être en doublon. Et ça, c'est la première étape, puisque un fonds de pension du Québec est déjà actionnaire. Il va augmenter son actionnaire, ses parts dans les actions de Bombardier et Alstom. Et c'est lui qui va devenir majoritaire. Donc, l'entreprise va devenir canadienne.
Douai, 20 février 2020. Manifestation contre le projet de réforme des retraites. Reportage Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.